Bonjour à toutes et à tous. Nous voilà au mois de décembre, le dernier mois de l'année. Et je sais que c'est une période assez chargée pour les uns et les autres, que ce soit d'un point de vue professionnel ou personnel. Et je prie que la parole de Dieu nous fortifie dans cette période de l'Avent, afin que nous gardions nos yeux fixés sur Jésus, notre Sauveur et notre Seigneur. Oui, je prie que la parole de Dieu nous fortifie durant cette période. Cela fait déjà 2 semaines que nous sommes dans cette série de prédications intitulée « Dans l'attente de son retour ». Nous parlons du retour de Jésus-Christ, du Seigneur que nous avons loué à l'instant. Il reviendra de manière visible et glorieuse. Non seulement il l'a annoncé lui-même, et c'est ce que nous avions vu avec Michaël il y a 2 dimanches, mais il revient pour juger chacun selon ses actes. Et Pasteur Yoxas nous a bien rappelé la semaine dernière que les uns entreront dans le royaume de Dieu, tandis que les autres iront au châtiment éternel. Et c'est Jésus qui donne le verdict. Et cet après-midi, je voudrais m'arrêter sur ce texte qui nous parle du retour de Jésus présenté comme étant le jour du Seigneur. Dans les groupes de maison, vous avez étudié les 3 premiers chapitres de cette lettre de Paul aux Thessaloniciens. Et j'ai cru comprendre que cette semaine, même un groupe avait pris un peu d'avance et avait étudié la fin de cet épître. Paul écrit cette lettre à cette jeune église qu'il a fondée lors de son 2e voyage en mission. Et à cause de l'opposition qu'il a rencontrée à Thessalonique, Paul a dû partir plus tôt que prévu. Et c'est alors que depuis Athènes, il envoie son collaborateur Timothée pour avoir des nouvelles. Pour avoir des nouvelles de ces jeunes convertis. Et c'est ensuite à Corinthe que Timothée rejoint Paul, et vraisemblablement, c'est là, à Corinthe, que Paul écrit cette lettre à l'église de Thessalonique. Et nous voyons dans cette lettre que Paul est rassuré par les nouvelles qu'il reçoit de Timothée. Paul est rassuré. Les Thessaloniciens, qui rencontrent pourtant de l'opposition, ont toujours la foi. Ces jeunes convertis sont toujours dans la foi, c'est OK. Et Paul veut les encourager. Paul veut les encourager à poursuivre leur nouvelle vie avec le Seigneur, tout en se préparant à son retour. Durant son séjour à Thessalonique, Paul a quand même eu le temps d'en parler, de ce retour du Seigneur. Mais une question au moins préoccupe les Thessaloniciens, et l'apôtre va y répondre. Et ce que nous remarquons dans notre texte, c'est que Paul les exhorte à s'encourager les uns les autres en attendant le retour du Seigneur. Paul les exhorte à s'encourager les uns les autres. C'est ainsi que ces chrétiens devaient vivre entre eux, s'encourager les uns les autres. Et en ce qui nous concerne à Saint-Maur, quelle est la part que nous donnons à l'encouragement mutuel? Quelle est la part que nous donnons à l'encouragement les uns envers les autres? Et il ne s'agit pas de n'importe quel encouragement. Le message à retenir à partir de ce texte est que nous qui avons une espérance, nous devons nous encourager les uns et les autres à vivre dans l'attente du retour du Seigneur. Nous qui avons une espérance, nous devons nous encourager les uns les autres à vivre dans l'attente du retour du Seigneur. Regardons d'après ce texte, dans quel sens nous devons nous encourager les uns les autres? Eh bien d'abord, nous encourager, premièrement, à regarder à la résurrection. Les versets 13 à 18 du chapitre 4. Nous encourager les uns les autres à regarder à la résurrection. Vous voyez au verset 18, nous lisons cette exhortation de Paul. « Encouragez-vous donc les uns les autres par ces paroles ». Ces paroles renvoient à ce que Paul vient d'écrire au verset 13 à 17. Encouragez-vous les uns les autres par ces paroles. Et dans un souci tout à fait pastoral, Paul répond à ce qui préoccupe les chrétiens de Thessalonique, à ce qui les attriste. Nous lisons au verset 13. Nous ne voulons pas, frères et sœurs, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont morts, afin que vous ne soyez pas dans la tristesse comme les autres qui n'ont pas d'espérance. » Paul enseigne un point qu'il n'a sans doute pas eu le temps d'aborder avec les Thessaloniciens. Et nous pouvons nous demander ce qui cause leur tristesse exactement. Est-ce seulement la mort de leurs frères et sœurs en Christ? D'après la réponse de Paul que nous avons ici, nous pouvons en déduire que les chrétiens de Thessalonique étaient attristés à l'idée que ceux qui les ont précédés dans la mort allaient manquer le retour de Christ. Ce qui attristait sans doute ces chrétiens de Thessalonique, c'est que ceux qui les ont précédés dans la mort puissent manquer, si Christ devait venir de leur vivant, puissent manquer ce retour. Si Jésus revient de leur vivant, qu'en sera-t-il de ceux qui sont déjà décédés? Et vous voyez quel amour ces Thessaloniciens avaient les uns pour les autres, au point de se préoccuper de ceux qui sont décédés. Les vivants se préoccupent de ceux qui sont morts. Et Paul les rassure en leur rappelant d'abord qu'il y aura une résurrection des morts. Verset 14. En effet, si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, nous croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Paul parle ici des croyants décédés que Dieu ramènera par Jésus et avec lui. Donc si Jésus devait revenir du vivant des Thessaloniciens, il n'aurait pas un plus grand privilège que les défunts, puisque ceux-ci ressusciteront. Et Paul appuie encore là-dessus. Regardez le verset 16. « En effet, le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et ceux qui sont morts en Christ ressusciteront d'abord. » Nous avons dit les semaines précédentes que le retour du Seigneur sera visible aux yeux de tous. Et ici, nous voyons bien que cet événement sera même clairement annoncé. Un signal, la voix d'un archange, le son d'une trompette. Mes amis, quand cela se produira, nous ne manquerons pas de savoir que Jésus sera bien de retour. Et ce jour-là, il n'y aura pas de place au doute. Nous le saurons, nous serons informés, très clairement. Et comme nous l'avons vu dans l'évangile de Matthieu, le Seigneur descendra du ciel, puisque c'est là où il se trouve en ce moment. Donc ce n'est que de là qu'il viendra. Et à cet instant, ceux qui sont morts en Christ ressusciteront, reviendront à la vie, avec un corps qui ne meurt plus. Et tous les croyants, ceux qui viennent d'être ressuscités et ceux qui seront vivants au retour de Jésus, seront enlevés dans les airs à la rencontre du Seigneur. C'est ce que nous voyons au verset 17. C'est toujours assez intriguant de comprendre qu'est-ce que ça veut dire d'être enlevé et d'aller à la rencontre du Seigneur. Et seul Dieu a le pouvoir de faire cela. Vous pouvez essayer de sauter, vous n'allez pas aller au ciel. Et j'ai trouvé dans plusieurs commentaires que l'expression « à la rencontre du Seigneur » ne se limite pas juste à l'idée d'aller vers lui. À cette époque, quand un personnage important s'approchait d'une ville, les habitants de la ville allaient à sa rencontre pour ensuite l'escorter jusqu'à la ville. C'était une manière d'honorer une personne importante. C'est comme si, si le président de la République devait nous rendre visite, eh bien, on sortirait à sa rencontre pour l'accueillir et on viendrait avec lui jusqu'ici. Si nous trouvons en cela des similitudes avec le retour du Seigneur, alors il faut comprendre que nous le rejoindrons dans les airs pour ensuite l'escorter sur terre. Une terre qui sera libérée de la corruption, une nouvelle terre. Mais Paul ne donne pas autant de détails et va à l'essentiel que nous retiendrons cet après-midi, aujourd'hui. L'essentiel, c'est la fin du verset 17. Ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. C'est ça qu'il faut retenir. Peu importe de quelle manière ça va se passer, nous serons avec le Seigneur. Et peut-être que vous avez déjà entendu des gens se demander ce que nous allions faire dans le royaume de Dieu. Est-ce que nous allons passer nos journées à louer Dieu avec des harpes ? Vous êtes peut-être déjà posé cette question-là. Est-ce que nous allons continuer à travailler ? Ou bien encore, est-ce que nous allons nous ennuyer éternellement ? Mais le plus important dans tout ça, c'est que celles et ceux qui ont placé leur foi en Jésus pour leur salut seront toujours avec le Seigneur, physiquement, corporellement. Et c'est ce que nous ne vivons pas ici-bas en ce moment. Nous ne sommes pas avec le Seigneur physiquement. Il n'est pas là avec nous physiquement. Et nous ne sommes pas avec lui. Mais un jour, ce sera le cas, et pour toujours. C'est une telle espérance qui doit nous servir d'encouragement aux uns et aux autres, qui doit servir de consolation lorsque nous perdons un frère, une sœur en Christ que le Seigneur a repris auprès de lui. C'est avec ces paroles-là que nous devons nous consoler. Hier, quelques-uns d'entre nous étaient à la cérémonie de commémoration du pasteur Hong. Durant cette cérémonie, il y avait de l'émotion, comme vous pouvez l'imaginer. Il y avait de la tristesse, mais aussi de la reconnaissance et de l'espérance. Oui, de l'espérance, parce qu'au jour où Jésus reviendra, le pasteur Hong, ainsi que tous les chrétiens décédés, reviendront à la vie et nous irons ensemble à la rencontre du Seigneur. Voilà l'espérance. C'est pourquoi nous ne pleurons pas comme ceux qui n'ont pas d'espérance. Nous pleurons bien sûr parce que nous avons perdu un être cher, mais nous ne pleurons pas comme si nous ne le reverrons jamais. Nous ne pleurons pas comme si nous étions inconsolables. Nous reverrons nos frères et sœurs décédés. Nous les reverrons avec leur corps, un nouveau corps. Paul écrit tout ça aux chrétiens de Thessalonique, afin qu'ils ne restent pas dans l'ignorance ni dans la tristesse. Quand Jésus sera là, la mort ne sera plus là. Quand Jésus sera là, la mort ne sera plus là. Car lui-même l'a déjà vaincu, lorsque Dieu l'a ressuscité, après qu'il a donné sa vie pour nous. Il s'agit donc de s'encourager les uns les autres à regarder à la résurrection, qui interviendra au moment où Jésus descendra du ciel. Mais qu'en est-il du temps présent ? Que doivent faire les chrétiens de Thessalonique en attendant la venue de ce jour ? Et à quoi doivent-ils s'encourager les uns les autres ? Eh bien, deuxièmement, nous devons nous encourager à vivre sobrement. Les versets 1 à 11 du chapitre 5. Nous encourager à vivre sobrement, avec sobriété. L'apôtre Paul le dit deux fois dans notre texte, au verset 6 et 8. Soyons sobres. Et avant d'aller plus loin, regardons juste ce qu'il écrit dans les premiers versets de ce chapitre 5. Verset 1. En ce qui concerne les temps et les moments, vous n'avez pas besoin, frères et sœurs, qu'on vous écrive à ce sujet. En effet, vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Il y a deux semaines, Michael rappelait l'inutilité pour nous de savoir la date exacte du retour du Seigneur. Nous n'avons pas besoin de chercher ce détail. Et l'image que Jésus a employée dans son discours, nous la retrouvons ici. Le jour du Seigneur, comprenez le jour où il reviendra, ce jour-là viendra comme un voleur dans la nuit. Ce sera imprévisible. Ce sera inattendu. Inattendu pour ceux qui se croiront en paix et en sécurité. Voilà une terrible réalité pour ceux qui n'auront pas attendu ce retour, qui ne se seront pas préparés à ce retour. Pour eux, ce sera vraiment inattendu. Regardez le verset 3. Quand les hommes diront paix et sécurité, alors une ruine soudaine fondra sur eux, comme les douleurs sur la femme enceinte. Ils n'y échapperont pas. Au lieu de la paix et de la sécurité, ce jour apportera la ruine à ceux qui ne s'y attendaient pas. Et personne ne pourra y échapper. Dans une catastrophe naturelle, dans une guerre ou même dans un attentat, vous avez parfois des survivants, des personnes qui échappent à la mort. Mais au jour du Seigneur, personne n'échappera. Personne n'échappera à ce jour. Tout comme la femme enceinte n'échappera pas aux contractions. Ce sera un jour terrifiant pour les hommes et les femmes qui ne s'y attendront pas. Et d'où les exhortations de l'apôtre Paul aux chrétiens de Thessalonique. Regardez les versets 4 et 5. « Mais vous, frères et sœurs, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes pas de la nuit, ni des ténèbres. » En fait, bien que nous en ignorions la date, le jour du Seigneur ne sera pas une surprise pour ceux qui s'y attendent. Nous ne serons pas complètement surpris, parce que nous le savons déjà d'avance. Chaque génération de chrétiens doit s'y attendre, autant à l'époque des Thessaloniciens qu'aujourd'hui. Chaque génération de chrétiens doit s'y attendre. Il faut vraiment passer à côté de ces textes pour ne pas être au courant. Et Paul dit aux Thessaloniciens, « Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. » Qu'est-ce que ça veut dire ? Dans la pensée hébraïque, même dans la langue hébraïque, être enfant d'eux signifie posséder la caractéristique qui suit. Si je suis enfant de la lumière, ce qui me caractérise, c'est d'être une lumière. Par contraste avec les ténèbres. Si on dit que les chrétiens sont les enfants de la lumière, ils sont la lumière. C'est ce qui doit les caractériser. Et Paul rappelle à ces chrétiens leur identité. Ils sont du côté de la lumière. Ils connaissent Jésus qui est la vérité et la véritable lumière. Et voici ce que cela implique d'être enfant de la lumière. Versets 6 et 7. « Ne dormons donc pas comme les autres, mais veillons et soyons sobres. En effet, ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent, s'enivrent la nuit. » Nous avons ici la description de deux groupes. Ceux qui dorment, qui s'enivrent, et ceux qui veillent et qui sont sobres. Et c'est clairement le deuxième groupe qui intéresse l'apôtre Paul. Veillons et soyons sobres. Autrement dit, vivons en gardant à l'esprit que le Seigneur reviendra. Que ce monde tel que nous le connaissons, marqué par le péché, aura bien une fin au jour du Seigneur. Ne vivons pas comme les autres, comme si le Seigneur n'allait pas revenir, parce que ce serait trahir notre espérance. Ne vivons pas comme si le Seigneur n'allait pas revenir. Et puis, soyons sobres, modérés, lucides, sages, équilibrés. Écoutez ce que dit le prédicateur Charles Spurgeon au XIXe siècle. Soyez sobres, conduisez-vous en homme intelligent. Voilà une bonne parole nécessaire en nos temps d'excitation générale, où certains sont tellement désorientés qu'ils ne reconnaissent plus leur gauche d'avec leur droite. Les foules sont prêtes à suivre n'importe quelle folie, quelle qu'elle soit, du moment qu'elle soit présentée par un homme adroit et que cela soit fait pour leur plaire. Criez bien fort et beaucoup répondront. Ouvrez les portes et une multitude entrera, quel que soit l'amusement proposé. Il me semble que notre époque n'est pas si différente, si ce n'est pire. En 2021, nous vivons dans un monde qui nous pousse à toutes sortes d'excès. À part dans certaines annonces publicitaires, la modération n'est pas le maître mot de notre siècle. Voilà plutôt les discours que nous entendons. Profite, profite à fond de la vie. Ne te prive d'aucun plaisir. Fais tout ce que tu veux. Consomme plus et tu seras heureux, heureuse. C'est une réalité. Je vis dans le même monde que vous. Et lorsque nous suivons ces discours, consciemment ou inconsciemment, cela nous pousse à l'excès. Cela nous pousse à l'ivresse, pour reprendre l'idée de Paul. Ne dormons pas comme les autres, comme si Christ n'allait pas revenir. Mais voilà ce qui nous permet de ne pas tomber dans l'ivresse de ce monde. Verset 8. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres. Enfilons la cuirasse de la foi et de l'amour. Et ayons pour casque l'espérance du salut. Frères et sœurs, chaque matin, c'est cette armure-là que nous devons prendre avec nous. La foi, l'amour et l'espérance. Un soldat n'aurait pas idée de sortir sans sa cuirasse et sans son casque. Alors te manque-t-il l'un ou l'autre de ces équipements? En ce moment, qu'est-ce qui te fait défaut? Est-ce que c'est un manque de foi, un manque d'amour ou un manque d'espérance? Qu'est-ce qui remplit ton temps? Quels sont tes excès qui t'empêchent de vivre sobrement? Excès dans le travail? Excès dans les loisirs et les divertissements? Excès dans la nourriture? Excès dans la masse d'informations que nous recevons et que nous recherchons? Et dans tout cela, où sont la foi, l'amour et l'espérance? Avoir les trois, voilà une vie équilibrée. Voilà une vie sobre. Voilà une vie où nous restons lucides. Une vie où nous veillons, car le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Qu'est-ce qui te fait défaut? Est-ce qu'en ce moment tu manques de foi? Est-ce que tu manques d'amour? Est-ce que tu manques d'espérance? Dans les jours difficiles face à une épreuve, face à la pandémie actuelle, avoir foi en Dieu et espérer en son salut nous aide à tenir bon tous les jours. Nous tenons bon tous les jours parce que nous regardons au jour où le Seigneur reviendra pour nous sauver. Et c'est aussi tous les jours que Dieu nous appelle à aimer, à l'aimer lui de tout notre cœur, à aimer notre prochain comme nous-mêmes, à aimer nos frères et sœurs en Christ. Il nous appelle à cela tous les jours. Et l'espérance chrétienne est une belle espérance. Je n'ai pas besoin de vous convaincre, c'est écrit devant vous, versets 9 et 10. En effet, Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à la possession du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous, afin que, soit que nous veillions, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. L'espérance chrétienne est une belle espérance. Frères et sœurs, que ces paroles-là vous encouragent, alors que vous passez peut-être par des moments difficiles. Parce que Christ est mort sur la croix pour nos péchés, à nous qui avons placé notre confiance en lui, Dieu nous fait échapper à sa colère. Cette colère qui tombera sur les hommes et les femmes qui l'ont rejeté durant toute leur vie. La mort et la résurrection de Jésus nous donnent l'assurance du salut, car Dieu nous a pardonnés alors que nous méritions sa condamnation. Seuls la mort et la résurrection de Jésus nous garantissent d'avoir la vie éternelle. Nos mérites sont bien trop insuffisants. Nos péchés contre Dieu sont bien trop nombreux. Seuls les mérites de Jésus, lui qui est Dieu, lui qui est le seul homme à avoir vécu une vie parfaite et qui a donné sa vie en sacrifice. Seuls ses mérites, lui, à lui, nous donnent l'accès à la vie éternelle que nous ne méritons pas. Dieu a fait cela dans sa grâce et dans son amour. C'est le beau message de l'Évangile. Et nous avons besoin de l'entendre encore. Notre merveilleuse certitude en tant que chrétien, c'est de savoir qu'au-delà du monde présent, nous serons avec le Seigneur. Christ, entendez bien cela, Christ est mort afin que nous vivions avec lui. Et je suis heureux de la perspective de vivre l'éternité avec vous, en présence de Jésus lui-même. Je trouve que c'est une belle perspective de me dire qu'éternellement, nous devrons nous supporter. Non, plus sérieusement, nous devons que éternellement, nous allons nous aimer. Éternellement, pour toujours, en présence de Jésus lui-même, notre roi, notre sauveur. Et nous n'échapperons pas à cet avenir, même si on le voulait. Et cette promesse de vivre avec lui concerne ceux qui veillent, c'est-à-dire ceux qui sont vivants aujourd'hui, en tout cas aujourd'hui dans le texte concernant les Thessaloniciens, et cela concerne nos frères et sœurs qui dorment, c'est-à-dire ceux qui sont déjà décédés. C'est la même promesse qui se réalisera pour tous. Et enfin, Paul exhorte de nouveau les chrétiens de Thessalonique à s'encourager les uns les autres, pour la deuxième fois, à s'édifier mutuellement. Et d'ailleurs, ils sont déjà sur la bonne voie, c'est ce que nous voyons au verset 11. Paul exhorte de nouveau à s'encourager les uns les autres. Et je pense que cette insistance est importante pour nous. Et effectivement, que l'Esprit de Dieu nous anime d'un tel amour les uns pour les autres dans l'Église de Saint-Maur. Que nous soyons animés par Dieu d'un tel amour. Et durant cette semaine, prends des nouvelles. Prends des nouvelles d'un frère ou d'une sœur. Par le groupe WhatsApp, nous avons le numéro des uns et des autres. Pense à lui écrire un message pour l'encourager à vivre dans l'attente du retour du Seigneur. Nous avons des frères et sœurs qui ne sont pas présents aujourd'hui, par exemple. On peut penser à eux et les encourager à vivre dans l'attente du retour du Seigneur. Pense à écrire un message pour rappeler à cette personne notre merveilleuse espérance, alors que le présent ne semble pas nous offrir un avenir heureux. Mais nous avons une espérance, et c'est ce qui fait toute la différence. Durant cette semaine, fais le ménage dans ta vie, en enlevant les excès, en enlevant ce qui te fait oublier que Jésus reviendra bientôt. Et encourageons-nous les uns les autres à faire ce nettoyage dans notre vie, à enlever ce qui est ténèbres pour ne laisser passer que la lumière, pour ne laisser paraître que la lumière. Encourageons-nous les uns les autres à faire ce nettoyage dans notre vie de tous les excès de ce monde. Et comme ce n'est pas chose facile, nous avons besoin des encouragements des uns et des autres. Nous avons besoin de la prière des uns et des autres. Alors dis à ton frère, dis à ta sœur que tu as besoin de prière parce que tu veux te débarrasser des excès de ce monde pour laisser plus de place à la foi, à l'amour et à l'espérance. Demande le soutien de tes frères et sœurs. Parce que c'est chose difficile de se débarrasser de cela. Demande la prière de tes frères et sœurs. Parce que tu veux que rien dans ce monde ne cache ta vue, alors que tu es en train de voir par la foi, d'espérer par la foi, dans le retour glorieux de ton Sauveur. Et tu veux que rien ne cache ta vue. Nous avons besoin de nous encourager à cela, les uns les autres. Aucun d'entre nous n'est assez fort, tout seul, pour y arriver. Cet après-midi, en tant que pasteur, je veux vous encourager à l'encouragement. Toutes les fois où je traversais des moments difficiles dans ma vie, c'est l'encouragement de mes frères et sœurs qui m'a fait du bien. Je suis peut-être particulièrement sensible à ça, hein. Mais une église qui ne met pas l'encouragement en pratique passe à côté du commandement de nous aimer les uns les autres. Et je ne dis pas que nous ne le faisons pas, mais progressons encore dans ce domaine. Je suis sûr qu'un certain nombre d'entre nous, ont besoin d'encouragement. Écoutons la parole de Dieu. Écoutons ce que l'apôtre Paul dit aux Thessaloniciens. Nous qui avons une espérance, nous devons nous encourager à vivre les uns les autres dans l'attente du retour du Seigneur. C'est-à-dire à regarder à la résurrection finale et à vivre sobrement. Le monde qui ne connaît pas Dieu n'attend pas le retour du Seigneur. Et nous voyons comment ce monde vit. Mais ce qui fait partie de notre témoignage chrétien, c'est justement de vivre avec l'aide du Seigneur, en étant enraciné dans la foi, dans l'amour et dans l'espérance. Parce que nous savons que Christ reviendra pour notre plus grande joie. Alors soyons une communauté qui attend le retour du Seigneur et qui s'encourage dans cette attente. Amen. Je vous invite à prendre un temps pour avoir l'occasion de répondre.